Quel est le rôle de l'Europe dans la guerre russe contre l'Ukraine? Comment l'Europe prend conscience de sa propre identité dans cette guerre? Comment envisager le renforcement européen à l'intérieur de l'OTAN? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Pierre Haroche, maître de conférences en relations internationales et sécurité internationale à l'Université Queen Mary de Londres, auteur de l'ouvrage « Dans la forge du monde, comment le choc de puissance façonne l'Europe », édition Fayard, à paraître en mai 2024. Bonjour Pierre, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme spécialiste sur les questions de sécurité, sécurité européenne. Vous enseignez à l'université Queen Mary de Londres à Paris. On vous connaît aussi comme auteur du livre qui va sortir très prochainement en France, dans la forge du monde, où vous vous concentrez justement sur le rôle de l'Europe entre les grandes puissances telles les États-Unis et la Chine. Et donc, vous vous intéressez à des questions européennes depuis longtemps. Et donc, ma première question à vous serait toute simple, en fait. Quel rôle pour l'Europe aujourd'hui dans le contexte très perturbé et notamment dans le contexte de cette agression russe contre l'Ukraine qui est un changement sismique pour le continent européen?
C'est une bonne question. Il y a plein de dimensions, je pense. La dimension la plus immédiate sur les questions de sécurité, on la voit en ce moment, c'est-à-dire que avec des États-Unis qui ont de plus en plus de mal à politiquement apporter leur soutien, on le voit avec la question du financement des livraisons d'armes à l'Ukraine. La question du soutien à l'Ukraine devient de plus en plus une affaire européenne, même si, on pourra en reparler, les Européens ne sont pas encore au niveau qu'il faudrait pour prendre le relais, mais ça devient une affaire européenne de fait. Mais il n'y a pas que simplement la dimension militaire. Un aspect que je trouve aussi intéressant, c'est la façon, la question de l'élargissement de l'Union européenne, c'est-à-dire la façon dont l'agression russe contre l'Ukraine pousse aussi l'Union européenne à évoluer dans la façon dont elle conçoit son identité. Ça aussi, c'est intéressant. Je me souviens d'une phrase qui est un petit peu programmatique de cette évolution, qui est celle du président Zelensky le 1er mars 2022, lorsqu'il s'adressait au Parlement européen et qu'il disait « Nous, les Ukrainiens, nous résistons, nous montrons que nous sommes au moins comme vous, et c'est à vous maintenant, et il s'adressait aux parlementaires représentant les peuples européens, c'est à vous maintenant de montrer que vous êtes des Européens. » Donc, dans cette guerre, il est aussi la question de l'identité européenne est aussi en jeu. Donc, il y a plein de biais par lesquels le rôle de l'Europe se redéfinit, et on est vraiment au début de cette mutation.
Oui, donc le moment est vraiment crucial. Or, cette grande invasion russe dure maintenant plus de 2 ans, avec des succès, bien sûr, fondamentaux de la part de l'Ukraine et ses partenaires, dont la France et dont l'Europe, bien sûr, mais bien sûr, les succès aussi limités, puisque 20% du territoire ukrainien est encore occupé et depuis plusieurs mois, la ligne du front ne bouge presque plus, et donc on peut parler d'une certaine impasse aussi. Est-ce que, selon vous, voilà, le rôle joué par les États-Unis, notamment voilà, cette pause, on espère qu'elle va être terminée bientôt, mais voilà, cette pause avec la livraison de l'aide autant nécessitée par l'Ukraine, est-ce qu'elle a joué aussi le rôle pour le leadership européen? Parce que nous avons vu plusieurs leaders, entre autres, bien sûr, tout d'abord, sans doute, Emmanuel Macron, président de la République française, durcir le ton. Nous avons vu le président tchèque de faire ce qui était impossible d'imaginer il y a quelques mois, notamment il a trouvé 1 million d'obus pour l'Ukraine, il a cherché un peu partout. Et donc est-ce que voilà, ce côté sécurité, est-ce que l'isolationnisme, il est temporaire, on espère, des États-Unis, il pousse en quelque sorte l'Europe d'agir d'une manière beaucoup plus ferme?
Oui, je pense que c'est pas forcément d'ailleurs temporaire, c'est-à-dire que ce qui peut être temporaire, c'est le vote sur le supplemental. On dit, mais maintenant ça fait des mois et des mois qu'on dit que peut-être une solution sera trouvée. Mais ce qu'on voit de toute façon, c'est que l'engagement américain est de plus en plus compliqué parce que les Américains non seulement ont envie de limiter leur engagement et en plus ont envie de préserver leur capacité à s'engager aussi sur d'autres théâtres. On a vu le fait que les livraisons d'armes à l'Ukraine étaient aussi parfois en concurrence avec les livraisons d'armes à Israël, avec la question de savoir s'il fallait préserver des capacités pour l'Asie, pour Taïwan. Donc c'est ça qui complique sur le long terme et pas simplement dans les mois qu'on vient de passer, la position des États-Unis. Donc oui, ça appelle un leadership européen. Je dirais que ce leadership, il n'est pas encore là. Parce qu'il faut être réaliste. Vous avez parlé des difficultés des Ukrainiens sur le front. Il y a vraiment des statistiques qui sont tout à fait parlantes. Lorsque l'on voit que les Russes ont 10 fois plus de munitions que les Ukrainiens, c'est bien la preuve de l'échec du système actuel de livraison d'armes à l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il faut être clair, le système actuel ne fonctionne pas et les Européens ne compensent pas ce que les Américains devraient donner. Et d'ailleurs, même ce que les Américains donnaient était aussi limité. On sait que les Américains ont été très réticents sur certains types d'armes, sur les missiles longue portée. On les a vus aussi, y compris l'administration Biden, qui politiquement soutient l'Ukraine, être très réticente à voir les Ukrainiens frapper les raffineries russes. Donc même le soutien américain a des limites et le soutien européen n'est pas encore capable de le compenser. Donc on est vraiment à un moment où il faut tout repenser parce que beaucoup d'Européens, consciemment ou inconsciemment, pendant les premiers mois de la guerre, sont partis du principe qu'il suffisait de livrer des stocks existants, voilà, des stocks de munitions, des stocks de chars, des stocks de canons, et que d'une manière ou d'une autre, la guerre prendrait fin au bout de un an et demi, 2 ans. Et personne ne s'est vraiment préparé à une guerre longue où il fallait être capable de relancer massivement la production de certains équipements militaires consommables, c'est-à-dire grosso modo les obus, les drones, les missiles, les reproduire en très grande quantité, des millions d'obus par an. Personne ne s'est vraiment préparé à ça et c'est là où on a perdu beaucoup de temps, alors même que beaucoup de gens disaient « les Ukrainiens se battent pour nous laisser le temps derrière de reconstituer une industrie de l'armement capable de résister à la Russie », mais ce temps, malheureusement, n'a pas été pleinement exploité. En revanche, comme vous le dites, il y a depuis, je dirais, cet hiver, une prise de conscience un peu différente. Il y a un moment où beaucoup de think tankers et d'observateurs dont je fais partie se sont inquiétés cet hiver, non seulement de la situation difficile sur le front en Ukraine, mais aussi de l'absence de débat en Europe sur la façon d'accélérer et de transformer le soutien à l'Ukraine. C'est pour ça, avec un grand nombre de think tankers, bien sûr ukrainiens, mais aussi du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de l'Europe, on avait publié un papier dans plusieurs journaux, dont Le Monde en France, mais aussi European Pravda à Kiev, et d'autres journaux importants européens comme El País en Espagne. Et on avait dit c'est un moment démosthène pour renvoyer à cet orateur athénien qui voulait préparer ses concitoyens à la guerre qui allait venir. Et on disait il faut parler de cette guerre et il faut se mobiliser aussi dans les esprits, parce que là, on n'est pas préparé à faire un vrai effort industriel, financier. On n'est pas conscient du danger qui se rapproche. Ça, je pense que, comme vous le dites, on est en train de le faire. Je pense que le mérite principal des déclarations du président Macron, qui ont été suivies ensuite par des soutiens aussi dans les pays baltes, en Pologne, en République tchèque, en Finlande, en Norvège, donc quand même de façon assez large parmi tous les pays les plus concernés par ce qui se passe en Ukraine, ça a ce mérite d'envoyer un message fort aux opinions publiques. Il faut considérer que la guerre en Ukraine, c'est notre guerre. Il faut considérer que la guerre en Ukraine, c'est un enjeu existentiel. Et si nous perdons l'Ukraine, c'est un drame existentiel pour tous les Européens. Ça, je pense que c'est en train d'infuser dans le débat public. Évidemment, il y a des gens qui sont... il y a des opinions différentes. On est à un moment de débat électoral, donc il y a des gens qui vont dire des choses très différentes. Mais au moins, il y a ce débat, même si tout le monde n'est pas déjà d'accord. En revanche, la question matérielle, industrielle, ça... c'est un enjeu qui reste à construire et qui est devant nous.
Oui, tout à fait. Donc, il y a cette rhétorique qui est là, cette volonté qui est de plus en plus explicite de considérer cette guerre comme notre guerre. D'ailleurs, voici le titre de l'ouvrage de Nicolas Tenzer qui vient de paraître en France. On a bien remarqué votre article sur le moment de Démosthène ici en Ukraine, d'ailleurs parce qu'il était traduit, mais aussi dans le journal Le Monde, qui est très lu aussi en France. Donc, c'est un message très clair et net. Et pourtant, on a quand même l'impression que des avancements sont suivis souvent des reculs, puisque après cette rhétorique suffisamment forte du président de la République Emmanuel Macron sur l'envoi hypothétique de troupes européennes sur le sol ukrainien, donc qu'il disait clairement qu'il ne pouvait pas exclure en fait l'envoi de troupes. Mais ensuite, nous avons vu il y a quelques jours par exemple ce geste par exemple que d'inviter la Russie pour l'anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. Donc, bien sûr, il s'agit d'un geste politique, mais il va dans l'autre sens que de vouloir continuer à parler avec la Russie. Et d'ailleurs, on sait très bien que l'Union soviétique n'avait pas participé, n'est-ce pas, dans cette opération de débarquement. Et donc, pourquoi le faire? Donc, est-ce que c'est pour maintenir dans l'esprit de cette ambiguïté stratégique ou, il y a des gestes qui vont dans le sens tout contraire. Et donc, on se pose bien la question. Que dans cette alliance, il y a déjà plusieurs pays, dans cette alliance qui n'exclut pas l'envoi de troupes européennes sur le sol ukrainien, il y a plusieurs pays, il y a les pays baltes, il y a Pologne, il y a Norvège, ils sont 9, je crois, vous me corrigez si je me trompe, donc c'est beaucoup, mais d'autre part, il y a toujours des va-et-vient, et puis... on a aussi vu que les paroles d'Emmanuel Macron étaient récemment critiquées par Raphaël Glucksmann qui avait salué la rhétorique, mais a dit que malheureusement les actions ne suivent pas suffisamment rapidement. Est-ce que, à votre avis, donc il y a pas que changement de rhétorique, mais qu'il y ait des actions qui vont suivre surtout?
Oui. Alors. Je pense que ça, c'est important. Je pense que la rhétorique est importante. Moi, je ne serais pas comme ceux qui disent « c'est uniquement des paroles ». Je pense que ça montre aussi une évolution. Alors, vous avez cité d'autres décisions du président Macron d'inviter la Russie. On sait qu'il a eu des paroles qui voulaient tendre la main à la Russie dans le passé, qu'il a pris ses distances avec cette politique. Moi, je ne suis pas un porte-parole du président Macron, donc... je ne suis pas là pour garantir qu'il pense d'une façon ou d'une autre. Tout ce que j'observe, c'est quand même qu'il y a une tendance assez, que je pense en tant qu'analyste assez solide, de rapprochement avec les pays du flanc Est, qui a été engagé, par exemple, au moment du discours de Bratislava, qui est vraiment un discours tourné vers les pays du flanc Est, qui leur dit « Vous nous avez avertis sur le danger que représente la Russie, nous ne vous avons pas assez écouté, il faut davantage vous écouter. » Ça, c'était important. Le président de la République française a aussi employé le terme de pilier européen au sein de l'OTAN, qui était une façon de faire un pas aussi en direction des pays du flanc Est dans la conception commune d'un système de sécurité renforcé entre Européens dans un contexte où les États-Unis prennent leur distance. Il y a eu aussi le soutien marqué de la France pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui était quelque chose qui n'était pas évident parce que la France est un pays traditionnellement plus modéré sur l'élargissement, que ce soit de l'Union européenne ou de l'OTAN. Donc, je pense qu'il y a quand même tout un tas de signaux qui montrent qu'il y a une politique d'ensemble, que ce n'est pas simplement une petite phrase qui a été lancée à un moment donné. Après, je suis d'accord avec vous qu'il faut être vigilant et il faut essayer de maintenir ce cap au niveau national et au niveau européen, et que c'est un débat permanent. Maintenant, si on parle des actes et des aspects matériels au-delà de la déclaration, je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, l'enjeu essentiel est au niveau européen. C'est-à-dire que si on continue à envoyer des armes chacun de son côté, y compris avec des mécanismes comme la Facilité européenne pour la paix de l'Union européenne qui permet des remboursements des livraisons d'armes, on n'arrivera pas à mobiliser suffisamment d'industries et à avoir une production suffisamment rapide et massive pour donner à l'Ukraine les moyens d'avoir autant de munitions que la Russie. Donc on a vraiment besoin de parler d'une seule voix pour mobiliser sur le long terme l'industrie de la défense. Finalement, l'objectif stratégique, c'est celui que la première ministre estonienne avait donné, Kaja Kallas, l'année dernière, en disant il faudrait que ce soit aussi massif que lorsque nous avons acheté des vaccins contre la Covid-19, où l'Union européenne était capable de dire la Commission européenne va commander des vaccins pour 450 millions d'Européens, elle va mettre 75 milliards d'euros sur la table, et c'est elle qui va être le seul interlocuteur de l'industrie. Et c'est ça qui a fait que les Européens ont pu dicter un peu leurs conditions aux industriels en termes de quantité et de vitesse et de qualité. Il faudrait retrouver la même chose, et c'est pour ça que je pense que c'est très important que nous ayons des instruments au niveau de l'Union européenne pour financer et des contrats passés de façon centralisée au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous avons vu avec le plan munitions de l'année dernière que même si on se donne un objectif commun, mais que chacun va passer des contrats dans son coin, eh bien, nous n'arrivons pas aux objectifs. Il faudrait qu'un acteur européen, ça peut être l'Agence européenne de défense, dise, voilà, nous avons un financement européen important pour des années et nous allons acheter chaque année des munitions, donc créer une relation forte et structurelle avec tout un tas d'industriels pour être sûr d'avoir chaque année suffisamment de munitions à donner à l'Ukraine et au-delà d'ailleurs, c'est important de le dire, à l'Europe, parce que même l'Europe au sens de l'OTAN, au sens de la défense des pays qui sont déjà dans l'OTAN et de l'Union européenne, eh bien, même si la guerre en Ukraine prenait fin, il n'aurait pas, en l'état actuel des choses, suffisamment de munitions pour être crédible dans une guerre vis-à-vis de la Russie, puisque on sait très bien que, par exemple, la Bundeswehr, dans les derniers chiffres, avait quelques semaines à peine de munitions. Donc, dans ces conditions, la dissuasion conventionnelle, la capacité à résister à une attaque russe, n'est pas crédible. Donc, c'est vraiment un effort d'ensemble. D'une certaine manière, l'Ukraine, c'est la pointe de la lance, mais c'est un effort d'ensemble qu'il faut faire et de long terme. Et ça, c'est très important de se donner les moyens de le faire. Il y a une réflexion qui a été lancée au dernier Conseil européen de dire qu'on pourrait faire un emprunt européen pour essayer de lancer ces fonds européens communs pour acheter des armes tous ensemble. C'est un sujet qui avance. L'Estonie en particulier et la France soutiennent cette option. D'autres pays, y compris des pays qui sont traditionnellement réticents à l'égard des emprunts, le font, comme la Finlande. L'Allemagne est encore réticente, mais je pense que c'est important que les pays les plus motivés, que ce soit les pays qui ont soutenu la position du président Macron ou d'autres, fassent valoir le fait qu'en période de guerre, ça n'est pas prendre un risque financier d'emprunter de l'argent pour acheter des armes, c'est au contraire économiser de l'argent à l'avenir, parce que les armes que nous achetons aujourd'hui, c'est économiser les armes qu'il faudrait acheter encore plus à l'avenir si la situation se dégradait et si on était dans une situation encore plus dangereuse. Donc finalement, ça nous fait faire des économies et c'est très important de le savoir. Se réarmer et réarmer l'Ukraine le plus tôt possible, c'est éviter d'avoir à faire des dépenses encore plus importantes si la situation se dégrade.
Oui, ce sont des très bons arguments, en fait, qui vont en quelque part en contresens à ce que l'Union européenne a l'habitude de vivre, puisque c'est vrai que prononcer aujourd'hui faire des propositions de s'armer, que l'Europe s'arme véritablement, qu'elle relance des industries, qu'ils agissent ensemble, donc tout ceci contredit en quelque sorte cet état de choses, cet état d'esprit qui avait duré pendant plusieurs décennies, n'est-ce pas, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est un mode de vie qui peut-être pas tellement bien accepté au moment où nous parlons par les sociétés respectives en Europe, puisque vous prononcez le mot guerre à Paris, la guerre semble quand même, malgré tout, un peu lointaine. Quand on est à Paris ou à Berlin, un peu plus proche quand on est à Varsovie, par exemple, ou à Riga. Donc c'est de changer toute la philosophie de ce qui est l'Europe, puisque donc l'Europe, vous proposez cette nouvelle Europe qui serait unie, qui va s'armer, qui va redevenir une force de défense. Je dis pas force militaire parce que l'Europe ne cherche pas à attaquer qui que ce soit, mais c'est aussi de cesser en quelque sorte que d'exporter la sécurité depuis les États-Unis, en fait, donc de dépendre de ce qui est l'OTAN, ce qui est super américain. D'ailleurs, cette position était prononcée par Donald Trump lors de sa présidence d'avant. Il exigeait que les Européens contribuent plus dans l'OTAN. On se rappelle très bien ces débats sur les 2% de PIB de chaque pays, etc. Et donc dans cette condition de méfiance par rapport aux États-Unis, c'est vrai qu'il est temps de le faire, mais il faudra quand même briser plusieurs résistances. Et donc, je pense, quand vous dites cette brillante idée que procéder par des emprunts, ça peut être très efficace. Mais je pense tout de suite, par exemple, au cas d'Hongrie. Et donc, l'Hongrie qui a fait beaucoup de problèmes, d'obstacles pour d'autres initiatives européennes, pour l'Ukraine, est-ce que l'Europe, c'est aussi une organisation très, très solidaire, et donc il faudrait la briser quelques résistances des pays qui sont ouvertement hostiles à ce type de procédé. Comment faire ?
Alors, vous avez tout à fait raison, il peut y avoir des résistances. La Hongrie, c'est évidemment le cas le plus évident. Il y a d'abord une réponse de court terme, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire au mois de décembre, c'est-à-dire trouver des moyens à chaque fois qu'on doit prendre une décision et que les Hongrois veulent bloquer, de faire pression d'une manière ou d'une autre sur les Hongrois. Parfois, il y a des transactions qui se font, qui sont un petit peu des transactions bricolage pour que, en échange de fonds structurels qui étaient bloqués, ou alors de pousser les Hongrois à sortir de la pièce au moment où la décision est prise. Je pense d'ailleurs que ça a été vu comme par beaucoup aussi comme une innovation institutionnelle intéressante, comme une façon de faire une parenthèse dans la règle de l'unanimité, de dire qu'un État membre peut sortir au moment où on prend la décision. Bon, voilà. Après, c'est sûr qu'il faudra se poser aussi la question sur le long terme de la viabilité de cette façon de prendre les décisions. C'est pour ça, et là, pour le coup, la France et l'Allemagne sont plutôt sur la même ligne, de dire, si on veut une union géopolitique capable de s'élargir à l'Ukraine, à la Moldavie, et à être capable d'être un vrai acteur géopolitique, ça doit être un acteur qui prend plus de décisions à la majorité. C'est un sujet qui a beaucoup et qui est très sensible, parce que certains pays, pour le coup des pays du flanc est, craignent que si on remet en question l'unanimité, ils peuvent se trouver en minorité et donc voir leur position affaiblie. Je pense que des compromis sont possibles, parce que même si la majorité qualifiée telle qu'elle est définie aujourd'hui peut faire peur à certains États, on peut imaginer un système où il n'est pas nécessaire d'avoir l'unanimité, mais où l'unanimité moins un ou deux États permet de prendre une décision. Et donc, d'une certaine manière, s'il suffit d'être deux ou trois pays pour empêcher que soit prise une décision, ça peut rassurer quand même des pays qui se disent de toute façon, je ne serai jamais tout seul, j'aurai quand même un ou deux alliés, et ça permet d'éviter un cas comme celui qu'on a connu avec, qu'on connaît aujourd'hui avec la Hongrie. Donc, il y a des débats aussi de moyen terme institutionnels à avoir là-dessus, mais sur le court terme, tout ce qu'on peut faire, c'est comme ce qu'on a fait en décembre, c'est-à-dire essayer de faire pression au cas par cas pour obtenir tout de même que des décisions soient prises. Ça marche de temps en temps quand même, parce que des décisions ont été prises pour prendre des sanctions, financer la Facilité européenne pour la paix, financer les soutiens financiers à l'Ukraine, commencer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Donc il y a quand même beaucoup de décisions qui ont été prises malgré ces règles de l'unanimité, mais c'est sûr que c'est un sujet. Alors après, vous me parlez aussi des relations avec les États-Unis. D'une certaine manière, moi, j'y vois, là, vous avez gentiment fait allusion à mon livre au début, je vois vraiment là-dessus une rupture civilisationnelle, si vous voulez, parce que la civilisation européenne de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, c'est une civilisation qui a reposé aussi en partie sur une délégation effectivement de la sécurité aux États-Unis, et même après la fin de la guerre froide, sur une forme de refoulement de la puissance, en considérant que la méthode en particulier de l'intégration européenne, c'était une façon de gérer les relations internationales sans trop passer par les rapports de force, la puissance militaire ou la confrontation, mais plutôt par le dialogue, les échanges économiques, l'interdépendance. Et dans certains cas, ça pouvait marcher, ça pouvait favoriser un rapprochement entre les peuples, l'extension des échanges économiques. Et d'ailleurs, pour refaire le lien avec l'Ukraine, l'esprit du partenariat oriental, qui est la première relation institutionnalisée entre l'Union européenne et l'Ukraine, c'était ça l'esprit. C'était qu'il fallait forger des liens avec les voisins en ouvrant le marché d'un point de vue économique, mais aussi en diffusant des normes en matière de droits de l'homme, de démocratie, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, et que c'est comme ça qu'on assurait la sécurité européenne. Mais évidemment, le choc géopolitique, ça a été dès 2009, finalement, au moment où on a lancé ce partenariat oriental, la Russie qui l'a vu comme quelque chose d'hostile, parce que la Russie raisonnait pas du tout en termes de normes et d'ouverture, mais elle raisonnait en termes de sphère d'influence. Et elle a dit, si vous faites un accord avec ma sphère d'influence traditionnelle, eh bien pour moi, c'est un acte hostile et je vais essayer de mettre en place des dispositifs contraires et de faire pression sur les États, l'Arménie et bien sûr l'Ukraine, pour qu'ils ne rentrent pas dans votre système et qu'ils adhèrent à mon système concurrent avec des menaces. Et ça, c'est le point de départ de la guerre que nous avons ici. Donc le point de départ de la guerre que nous avons ici, c'est déjà en fait la façon dont la Russie a montré les limites, finalement, de la culture de l'Union européenne traditionnelle, selon laquelle on peut assurer sa sécurité par l'ouverture et les échanges mutuels. Et là, nous sommes dans le nouveau paradigme dans lequel on est obligé de penser l'Europe comme un ensemble qui doit être capable non seulement d'assurer sa sécurité, mais aussi de penser sa capacité à exercer de la puissance et à s'affirmer comme une puissance vis-à-vis au moins de son voisin russe, pour ne pas être en permanence la cible de l'intimidation et vu comme un acteur faible que l'on peut exploiter ou que l'on peut repousser. Et ça, c'est vraiment une mutation très importante de la culture européenne et qui est un enjeu des années à venir. D'une certaine manière, l'évolution des États-Unis ne fait qu'accélérer cette tendance, mais cette tendance, comme je l'ai dit, elle a été aussi alimentée par l'évolution de la Russie et l'agressivité russe. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, parce que plus nous prendrons du retard dans cette mutation, plus nous faciliterons le travail de ceux qui comptent sur la division, la faiblesse des Européens, pour mieux les affaiblir et en profiter.
Oui, donc d'où en fait l'éventuelle possibilité de l'affaiblissement de l'Europe. Dans toute cette réflexion que vous faites par rapport à ce côté de défense, côté militaire de l'Europe qui a renforcé donc ce changement de paradigme, quelle place pour l'OTAN, puisque l'OTAN c'est une structure qui existe, et donc d'ailleurs Je rappelle à nos auditeurs que la volonté de joindre l'OTAN est inscrite dans la constitution ukrainienne. Ça fait des années que les Ukrainiens essayent d'avancer vers l'OTAN, puisque c'est un système de défense collective, le seul qui existe aujourd'hui et qui est efficace pour l'instant. Et donc, dans ce contexte, avec le changement de la position des États-Unis, qu'il soit temporaire ou qu'il va durer, il montre que certaines défaillances de ce système-là. Donc, quelle place pour l'OTAN dans cette vision du monde? Et donc, et aussi une question plus pragmatique, puisqu'on sait très bien qu'il y a, en 2008, donc qu'il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans, la France, par exemple, l'Allemagne, il était, lors du sommet à Vilnius, il était très hostile à l'idée de ce geste politique d'inviter l'Ukraine dans l'OTAN. Aujourd'hui, on sait que la position française est tout autre, mais que c'est les États-Unis, plutôt l'Allemagne, qui font la résistance. On attend un sommet de l'OTAN qui va avoir lieu assez prochainement, en été de cette année. Et donc, est-ce que, dans cette vision que vous proposez, on appellerait ça peut-être autonomie stratégique ou autre chose de l'Europe, et l'OTAN, comment est-ce que vous voyez la coexistence de ces deux systèmes?
Alors, c'est une très bonne question, et je pense que ce n'est pas la coexistence, je pense que ça doit être les deux à la fois. Et ça doit être intégré, finalement. Ce n'est pas deux choses différentes. Parce que, comme vous le dites très bien, l'OTAN, ça existe. Et on ne va pas se débarrasser de ce qui existe tout de suite. Ça n'a pas de sens. Il faut compter sur ce qui existe. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose et une preuve de pragmatisme que le président de la République, Macron, s'est mis à parler à partir de l'année 2023, plus de piliers européens au sein de l'OTAN, ce qui a rassuré beaucoup de pays du flanc Est qui se sont dit « d'accord, on peut parler de renforcer le rôle des Européens, mais il faut le faire dans le cadre de ce qui existe, parce que tant qu'on a quelque chose qui marche, c'est pas le moment, surtout en période de guerre, d'affaiblir ce qui marche ». Donc oui, ça peut être fait au sein de l'OTAN, et je pense que vous avez raison, aujourd'hui, la défense européenne, ça se fait au sein de l'OTAN, mais au sein de l'OTAN, eh bien, le rôle des Européens doit se renforcer, et il doit se renforcer d'un point de vue en termes de capacité de mobilisation des troupes européennes sur le flanc Est, il doit se renforcer aussi en termes de capacité d'équipements militaires dont les Européens disposent pour faire face sur le flanc Est. Et pour ça, l'Union européenne peut jouer un rôle. C'est-à-dire que l'Union européenne ne doit pas remplacer ce que l'OTAN fait, coordonner des troupes sur le flanc Est. En revanche, elle peut faire ce que l'OTAN ne fait pas, c'est-à-dire soutenir avec des instruments budgétaires et des politiques industrielles la remontée en puissance d'une vraie industrie de défense européenne mobilisée pour la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a une complémentarité très forte. Lorsque le commissaire Thierry Breton dit qu'il faut passer en économie de guerre, il faut trouver des financements et des incitatifs et des aides techniques et administratives pour pousser les industriels à produire plus et plus vite, tout ça, ce ne sont pas des choses que l'OTAN fait, mais ça sert les efforts de l'OTAN et la capacité des Européens à jouer tout leur rôle dans l'OTAN. Donc les deux ont vraiment un rôle complémentaire aujourd'hui, et ça, je vois là-dedans un élément très important de la convergence nouvelle qu'il y a entre la France d'un côté, qui est attachée à cette idée d'autonomie européenne, et les pays du flanc Est qui sont attachés à renforcer la crédibilité de la défense européenne face à la Russie. Et les deux maintenant, ces deux objectifs qui pouvaient sembler un petit peu regarder dans des directions différentes il y a quelques années, là maintenant marchent vraiment main dans la main, et c'est une très bonne chose, parce que je pense que la défense européenne ne peut marcher que si les Français au moins et les pays du flanc Est sont d'accord. Maintenant, vous me parlez, votre deuxième question, c'est la question de l'élargissement de l'OTAN. Oui, effectivement, on a un problème avec l'Allemagne et les États-Unis. Je pense que c'est important de soutenir l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec ce que je viens de dire avant, je pense que l'autonomie stratégique européenne, si elle existe un jour, elle existera avec l'Ukraine et grâce à l'Ukraine. Parce que s'il y a bien un pays qui donnera de la crédibilité à la capacité de l'Europe à se défendre et à assurer une première ligne de défense forte, même si les Américains sont un peu moins présents ou un peu moins réactifs que par le passé, eh bien ce sont bien les Ukrainiens. Donc je pense que l'autonomie stratégique, ça passe par une intégration complète de l'Ukraine dans l'Union européenne et l'OTAN. Et bon, alors maintenant, comment y arriver ? Il y a deux choses. D'une part, les États-Unis, je pense qu'une chose qui peut convaincre les États-Unis d'accepter cette évolution, c'est de leur montrer justement que ce ne sera pas à eux tout seuls de faire l'effort pour défendre l'Ukraine. Ça, c'est un argument qui affaiblit le soutien à la candidature ukrainienne à Washington. C'est l'idée que si on fait rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce seront aux États-Unis tout seuls d'assurer la défense de ce nouveau membre et de s'impliquer encore plus en Europe, peut-être au détriment d'autres missions qu'ils auraient souhaité pouvoir assurer dans le reste du monde en Asie. C'est très important que les soutiens européens de l'Ukraine puissent expliquer aux Américains et le démontrer par les actes, bien entendu, ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les munitions et les capacités militaires, que l'élargissement de l'OTAN, c'est quelque chose qui sera aussi pris en charge en premier lieu par les Européens, et que la solidarité européenne sera la première ligne de défense, même si on veut évidemment qu'un lien reste avec les États-Unis, mais que la première ligne de défense et la plus importante, ce sera entre Européens. Et ça, ça peut rassurer les Américains et leur faire se dire, d'accord, on accepte cet élargissement, mais c'est d'abord une mission pour les Européens. Et deuxième chose, il y a l'Allemagne. L'Allemagne, je pense que c'est un pays qui, et peut-être même plus qu'un pays, c'est un chancelier, parce que beaucoup de gens dans les partis même de la coalition seraient peut-être plus partisans d'une politique plus active et plus ferme vis-à-vis de la Russie. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un chancelier qui est assez réticent. Je pense que la bonne façon de discuter avec les Allemands, c'est aussi de montrer une grande unité entre les voisins de l'Allemagne. Parce que au début de l'invasion à grande échelle de 2022, on pouvait parfois avoir l'impression qu'il y avait d'un côté les pays du flanc est très fermes vis-à-vis de la Russie, et puis de l'autre côté un couple franco-allemand plus distant. Alors dans ces conditions, c'était facile de dire il n'y a pas d'unité européenne, donc on ne prendra pas de décision importante. En revanche, si on envoie le message selon lequel les pays du flanc est, la France, mais aussi en dehors de l'Union européenne, mais dans l'OTAN, le Royaume-Uni, tous ces pays ont des visions convergentes sur l'idée qu'il faut être ferme et qu'il faut élargir nos institutions à l'Ukraine, eh bien, et ça peut pousser les Allemands à se dire « bon, nous ne voulons pas non plus être isolés dans le cadre de cette nouvelle Europe qui est en train de se construire, donc il vaut mieux accompagner ce mouvement ». Et moi, je crois à cette idée parce que les Allemands, c'est un pays qui n'a pas non plus envie d'être isolé et qui veut rester leader de la construction politique de l'Europe. Donc il n'aura pas intérêt à être isolé de ce mouvement. C'est pour ça aussi que je crois beaucoup à la renaissance du format Weimar entre la France, l'Allemagne et la Pologne, et que dans ce cadre, on peut, avec le temps et du travail, faire un peu évoluer la position allemande, en tout cas je l'espère.
Oui, on espère aussi, on espère que ça ne va pas prendre beaucoup d'années, ça ne va pas prendre des décennies, parce que rien n'est plus précieux pendant la guerre que le temps, parce que nous avons vu que la rapidité d'action, ça compte, parce que chaque jour de plus de cette guerre, il veut dire très concrètement, ici sur le terrain de guerre, encore des morts, encore des blessés, encore des destructions, encore des choses à reconstruire, à investir, donc voilà, on perd beaucoup, en fait, après, on va payer beaucoup plus cher après pour reconstruire tout ça, donc voilà. Donc les décisions, donc c'est d'où en fait cette réflexion aussi de cette situation, elle démontre en quelque part cette faiblesse, il faut aussi l'avouer, de nos régimes, des démocraties, de réagir à des challenges comme ça, puisque les régimes démocratiques, ça fonctionne lentement, ça fonctionne par la nécessité de forger les arguments, de convaincre les adversaires, puis d'agir ensemble, tant que les régimes autres, tels que le régime russe, par exemple, qui s'allie aujourd'hui ouvertement avec le régime iranien, avec le régime nord-coréen, voilà, il y a le supplément d'armes, ça passe très vite, et donc on est beaucoup moins efficace, parce que tout simplement notre rapport au temps, il est différent, parce que ça prend de temps que d'être démocratique, n'est-ce pas, tandis que dans les régimes autoritaires, on fonctionne d'une manière beaucoup plus efficace, or que on espère qu'à long terme, ça va être très différent. Donc, et ma dernière question à vous serait, voilà, donc c'est aussi un rapport avec votre livre, dans la forge du monde. Là, vous parlez pas uniquement de, vous parlez bien sûr de l'Europe, des États-Unis, mais aussi, j'imagine, voilà, de la Chine. Donc, le rôle de la Chine dans cette guerre, il est très important, même si la Chine détient cette position plutôt neutre, neutralité pro-russe, comme disent plusieurs experts. Voilà, ils observent et puis ils profitent en quelque sorte de cette guerre. Et donc, quelle place pour la Chine dans votre vision de cette nouvelle Europe, l'Europe forte, l'Europe armée, l'Europe autonome, dans le cadre de l'OTAN, si j'ai bien compris, mais autonome, et voilà. Et quel rapport avec la Chine qui reste, on le sait très bien, un régime qui est loin d'être un régime démocratique, un régime du monde libre.
Oui, alors... D'abord, pour votre premier point, c'est-à-dire la question de la différence entre les démocraties et les régimes autoritaires, je dirais que ça peut être à double tranchant. Oui, à court terme, c'est plus facile pour un dictateur de décider la guerre, de mobiliser. Les gens ont peur, les gens suivent, les gens subissent la propagande, c'est clair. Après, à long terme, c'est différent. Et je pense aussi que l'Ukraine, qui est un pays démocratique, montre aussi la force que ça peut avoir d'être un pays démocratique dans lequel on peut s'appuyer sur le soutien de la population, sur la mobilisation de la population qui sait qu'elle ne se bat pas pour l'ambition personnelle d'un dictateur, mais pour la survie d'un peuple et la défense de son territoire. Et je pense que ça peut jouer aussi à moyen long terme en Europe si on arrive vraiment à convaincre les Européens de l'intérêt de cette mobilisation. Cette mobilisation, à mon avis, est plus solide que dans une dictature où les gens se mobilisent par peur ou par résignation. Ça, c'est juste un point général. Je pense qu'à la fin, la démocratie est un régime aussi plus fort dans la guerre. Et ça, c'est très important. C'est aussi la leçon de la Seconde Guerre mondiale. C'est la leçon de beaucoup de guerres. Donc, il ne faut pas perdre espoir non plus dans la capacité des démocraties à se défendre dans ces conflits. Pour ce qui est de la Chine, il y a beaucoup de gens qui disent oui, la Chine pourrait faire pression sur la Russie, on en a beaucoup parlé et on ne le voit pas trop. Il y a un point sur lequel la Chine a peut-être joué un rôle et qui est constructif en soi, c'est la question nucléaire. C'est-à-dire que la Chine a toujours été claire sur le fait qu'elle était tout à fait hostile à ce qu'on utilise des armes nucléaires, bien sûr, dans ce conflit, mais même qu'on utilise les menaces nucléaires. Et ça, c'est important parce que ça montre que quand les Russes... Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les Russes ne peuvent pas aller trop loin dans leurs menaces nucléaires parce que leur grand allié chinois ne le permettrait pas. Et c'est important parce que la menace nucléaire, parfois, c'est utilisé comme épouvantail pour faire peur aux opinions publiques. Après ça, je suis d'accord avec vous, la Chine n'a pas forcément intérêt à jouer un rôle très constructif parce qu'elle bénéficie de la situation actuelle pour deux raisons. D'une part, plus la Russie s'enfonce dans cette guerre, plus elle est dépendante de la Chine. Donc la Russie se vassalise dans ce système. Ça, c'est aussi quelque chose que j'analyse dans le livre « La forge du monde ». On est clairement aujourd'hui dans un monde bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a deux vraies grande puissance, c'est les États-Unis et la Chine. La Russie n'est pas une grande puissance capable toute seule de déployer tous les instruments de la puissance. Et donc, plus elle s'engage dans cette guerre, plus elle se rend dépendante à l'égard de la Chine. Finalement, ça peut rassurer et intéresser les Chinois. Deuxièmement, plus cette guerre est engagée, plus ça oblige les États-Unis à regarder dans plein de directions à la fois. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui intéresse les Chinois, de se dire que les États-Unis ont des conflits qui les occupent au Moyen-Orient, en Europe. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas focaliser toute leur attention sur l'Asie. Donc la Chine, et puis bien sûr, la Chine, c'est comme vous le dites, un pays autoritaire, qui a d'une certaine manière une solidarité de régime avec la Russie de Poutine. qui auraient très peur que la Russie de Poutine soit affaiblie ou qu'il y ait une révolution en Russie qui changerait le régime. Elle a intérêt à maintenir l'idée selon laquelle les dictatures sont fortes et sont stables et ne bougent pas, parce que sinon ça remettrait en question le pouvoir du Parti communiste chinois. Donc moi, je ne placerai pas beaucoup d'espoir dans une médiation chinoise. Ça ne veut pas dire que la Chine n'est pas un acteur à prendre en compte, mais ce n'est pas un acteur qui va apporter une solution. En tout cas, ce n'est pas l'impression que ça donne pour l'instant, une solution au conflit ukrainien.
Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas une force qui va... Les plans de paix proposés par la Chine ne sont pas des véritables plans de paix. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de cynisme aussi dans cette position de la Chine, parce qu'on sait très bien que, bien sûr, il n'y a pas de livraison d'armement depuis la Chine vers la Russie, mais il y a quand même des commerces de composantes à double destination et que la Chine a tout intérêt que la guerre dure et que l'Occident... On va dire tout d'abord les États-Unis s'affaiblissent davantage dans cette aide à l'Ukraine et puis la Russie s'affaiblisse aussi. Mais donc cette situation où il n'y a pas de gagnant, où il n'y a pas de perdant, donc c'est ça qui fait renforcer la Chine en fait, parce que c'est celui qui fait partie de la guerre qui se renforce pendant un conflit de telle ampleur. Merci beaucoup Pierre pour votre analyse et pour votre soutien à l'Ukraine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Pierre Haroche, maître de conférence en relations internationales et sécurité internationale à l'Université Queen Mary de Londres, auteur de l'ouvrage Dans la fourche du monde, comment le choc des puissances façonne l'Europe. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.